Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Tout l'été, je vous accompagne dans cette série de podcasts « Que sont-ils devenus ?». Tout au long de l'année, vos témoignages nous ont interpellés, émus, bouleversés. Vos récits mettaient en lumière des problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés, un jour ou l'autre. Comment surmonter les blessures de l'enfance, la perte d'un être cher, la douleur d'une séparation amoureuse, comment faire face à la maladie, à la peur de ne pas être à la hauteur dans bien des situations. Vos histoires nous ont touchés au plus intime de nous-mêmes. Vous nous avez impressionnés par la force et le courage dont vous faisiez preuve face aux difficultés de l'existence. Vous nous avez beaucoup appris, enrichi. Une fois le téléphone raccroché, nous avons souvent pensé à vous. Nous vous avions laissé à un moment clé de votre vie. Aujourd'hui, nous prenons de vos nouvelles. Dans cet épisode, nous retrouvons Elia. Elle nous avait appelé le 5 avril dernier. Bonjour Elia.
Pauline.
Vous avez 31 ans. Quand vous nous aviez appelé, vous veniez de vivre une rupture amoureuse. Vous nous racontiez avoir grandi avec votre mère et vos trois sœurs dont vous êtes très proches. Votre père, alcoolique, est parti quand vous aviez à peine 3 ans. Avec le recul, vous analysez cet événement comme la source d'un manque affectif. C'est pourquoi vous avez débuté une thérapie. Le résumé que vous venez d'entendre est-il fidèle, Elia ?
Oui, certainement.
D'ailleurs, ça me permet de vous demander aujourd'hui comment vous avez vécu notre entretien. Est-ce qu'il a fait émerger chez vous de nouveaux questionnements ?
De nouveaux questionnements, peut-être pas. Mais je sais que ça, vous m'avez répondu des petits mots-clés qui sont restés dans ma tête et auxquels je pense encore. Mais non.
D'accord. Et quels sont-ils alors ? Qu'est-ce qui est resté ?
Par exemple, je me rappelle, je l'ai déjà réutilisé avec mes sœurs, vous m'avez dit, il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités.
Oui.
Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui pour moi est important autant qu'un travail thérapeutique.
Pourquoi justement cette phrase-là, cette réflexion-là vous a marqué autour de la vérité ?
Je ne sais pas trop, parce que peut-être que je suis quelqu'un d'assez carré, que quand je considère moi, pour moi qu'il y a une chose qui est vraie, je reste un peu là-dessus, ou j'ai tendance à être un peu tout blanc ou tout noir, comme on dit, et que ça me permet vraiment de me rendre compte que non, ça ne peut pas être pareil pour tout le monde, on va dire.
Et oui, chacun a sa vérité, en fait.
Comment ?
Chacun a sa vérité, en fait,
oui,
vous savez.
Voilà, c'est ça. Et puis, il n'y en a pas une qui se contredit par rapport à une autre, déjà.
Est-ce que vous vous sentez un peu moins perdu ? Est-ce que vous avez pris un peu de recul par rapport à votre séparation qui vous rendait profondément triste ?
Alors, j'ai pris du recul parce que le temps m'y oblige. Par contre, j'ai toujours un problème par rapport à cette séparation parce que je reste sur... c'est mon dernier compagnon, il a vraiment voulu couper les ponts. Il ne peut plus du tout me voir. On a essayé de rediscuter encore quelques fois et vraiment pour lui, c'est stop. Ça lui fait beaucoup de mal. Et du coup, là-dedans, moi, je suis obligée d'accepter que pour lui, il faut couper les ponts alors que moi, j'avais besoin de tout le contraire. Donc du coup, pour respecter ses besoins à lui, je suis obligée de... J'ai essayé de parler de ça avec mon psychologue, de justement d'accepter quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Mais là, pour le coup, c'est pas... Enfin, moi, je ne peux pas décider pour nous deux, quoi. Et ça, j'ai encore vraiment du mal à l'accepter.
Mais je comprends, Elia, que vous ayez du mal à l'accepter, parce que c'est douloureux, cette absence. Et peut-être ça ravive chez vous... une blessure d'abandon. Je vous propose à ce sujet de réécouter un extrait de ce que vous nous aviez dit lorsque vous nous avez appelé la toute première fois. D'accord ?
D'accord, ok.
Pardon ?
Même, je me protège sûrement pas. Je suis solitaire parce que j'ai peur qu'on finisse par me laisser tomber.
Oui.
Du coup, donc c'est pour me protéger, pour pas trop.
Ça peut être une façon, effectivement, l'attachement, on peut concevoir qu'il soit douloureux pour vous. Elia, vous êtes en train de me dire que cet homme, même si vous avez pris la décision ensemble de vous séparer, vous auriez aimé conserver un lien avec lui. Vous êtes là, Elia ?
Oui, pardon, je suis là.
Vous réfléchissez.
Non, moi j'aurais aimé C'est surtout que j'aurais aimé pouvoir discuter plus longuement et de la relation qu'on a eue et de notre séparation pour placer les choses, pour comprendre, pour pas rester sur des questions. Et du coup, bah, lui, il n'a pas du tout besoin de ça. Et donc, moi, je reste avec mes questions.
Quelles sont-elles, ces questions qui vous tourmentent ?
Mes questions, c'est comment est-ce qu'on peut croire autant à quelque chose, se projeter autant dans l'avenir, et que d'un coup, tout s'arrête. Et ouais, c'est surtout ça. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais...
C'est douloureux, en tout cas. C'est une souffrance pour vous. Oui, parce que cette relation était importante pour vous. Vous l'aviez beaucoup investie. Oui. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous m'avez dit à ce sujet que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation amoureuse, vous vous éloignez. Vous préférez...
Ouais, je m'éloigne ou je me protège ou je deviens... De temps en temps, je peux avoir des réactions peut-être un peu trop extrêmes pour une petite situation, par exemple. Et moi, j'ai tendance à presque saboter mes relations, à dire bah voilà, tu vois, je suis pas quelqu'un pour toi, ce genre de choses. Mais parce que derrière, j'aimerais qu'ils me disent bah si, même. Et voilà. Et à force de faire ça, bah, la personne en face, au bout d'un moment, se dit bah non, il n'y a plus rien à faire.
Bah, c'est-à-dire que lui aussi se protège. Et il a certainement, comme vous, investi cette histoire. Il vous a aimé. Et rester en lien avec quelqu'un que l'on a aimé, mais avec qui on ne peut plus vivre cette intimité-là, c'est douloureux. C'est douloureux et parfois, il ne vaut mieux plus avoir de lien du tout pour faire le deuil. Vous, je comprends que vous ne le viviez pas comme cela, parce que la question de l'attachement est au cœur de votre histoire. Ce qui me frappe une fois de plus, à nouveau, en vous écoutant, Elias, c'est votre clairvoyance, votre lucidité.
Mais justement, par rapport à cette histoire de faire le deuil, bah, je trouve ça triste de devoir faire le deuil d'une relation, mais en même temps, il est toujours là. Enfin, je veux dire, on n'est pas mort ni l'un ni l'autre. En plus, on habite tout à côté à la campagne. On pourrait se voir pour des choses... Du coup, j'ai l'impression de devoir faire le deuil avec quelqu'un avec qui j'avais pas envie et qui est pourtant très proche de moi. Et je sais qu'une séparation, c'est voilà, il y a tout ce travail de deuil à faire. Mais moi, j'ai vraiment du mal à accepter ça, faire un travail de deuil. J'ai pas envie.
Mais oui, parce que c'est très compliqué. Et ça, je vous disais, vous avez, ça renvoie à votre histoire et à la relation que vous avez eue avec votre père. Au moment où vous êtes rapproché de lui, où vous êtes installé en Bretagne, où enfin vous espériez entretenir un lien, il est malheureusement décédé. À nouveau, vous le perdiez, vous vous retrouvez confronté à l'absence. Et cette question du deuil, elle est douloureuse pour tout un chacun de nous, mais chez vous, il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon. Et quand vous me dites à l'instant, j'ai presque tendance à saboter mes histoires, mais oui, c'est pas presque. C'est d'une certaine façon, vous avez tellement peur d'être à nouveau abandonné que vous anticipez, vous prenez les devants, vous quittez avant que l'on vous quitte, comme une façon pour vous de reprendre le contrôle. Mais la souffrance, elle est toujours là.
Bah c'est ça, puis là par exemple je m'imagine, enfin je sens que je suis pas du tout prête à recréer des nouveaux liens, à recréer une relation, pourtant le temps passe et je me dis qu'à force, parce que voilà, à un moment ou à un autre, comme on dit, ça me tombera peut-être dessus, mais j'ai l'impression que je serai jamais prête, justement avec toujours cette peur de me dire même si par exemple les trois quarts du temps j'arrive à vivre le moment présent et tout, il suffit juste que dans ma tête il y ait un petit quelque chose, un petit déclic qui, voilà, mes peurs qui ressurgissent. Bah, c'est comme si, je sais pas, sur une journée de 24 heures, si pendant une heure dans ma tête il y a tout qui se bloque, comme si je gâchais tout le bon qui venait de se passer avant. Et j'ai toujours peur de ça, même si je sens que de temps en temps je peux être bien et avancer, être sereine et tout. J'ai toujours cette petite peur qui me fait dire, mais il suffit d'un rien pour tout foutre en l'air, en fait.
Oui, finalement, vous avez peur de vous-même et de vos propres oui. réactions. Parce que aimer, s'attacher à quelqu'un, est compliqué pour vous, Elia. Et c'est compréhensible au vu de votre histoire.
Mais d'ailleurs, c'est même pas que pour les relations amoureuses. Même au niveau amical, là, ça fait 6 ans donc, que je suis installée ici. Bon, après, peut-être c'est une histoire d'âge, mais dans mon ancienne région, j'avais des amis très proches. J'ai d'ailleurs des gens qui me connaissent très bien, qui m'ont vu évoluer depuis ma jeunesse, ma vie adulte et tout. Et ici, j'ai du mal à créer des vrais liens amicaux. Même s'il y a des personnes autour de moi qui, je sens qu'on est compatibles, on s'entend, je m'intéresse à leur vie, s'intéresse à la mienne. Donc, au bout d'un moment, j'ai du mal à investir, même au niveau émotionnel, amical, parce que comme si quelqu'un me connaissait trop, ensuite, moi, j'étais tellement aussi attachée à cette personne que, pourtant, comme si la peur de perdre quelqu'un, même au niveau amical, je sens qu'elle est là et j'ai bien conscience que c'est un peu ridicule parce que voilà, si j'ai des gens autour de moi qui sont proches, j'ai pas de raison d'avoir peur, j'ai rien à perdre, quoi, entre guillemets. Et pourtant, je me mets des limites aussi par rapport à ça.
C'est tout sauf ridicule, Elia. C'est le reflet de votre insécurité, de ce manque affectif, de cette absence de votre père qui a pesé lourdement dans votre vie, et qui a été malheureusement lorsque vous le retrouvez, vous le perdez parce et là c'est la mort qui survient. Donc l'attachement, je vous le redis, vous attacher, c'est risqué de perdre à nouveau. Et quand vous me dites que vous avez peur de ne jamais arriver à avoir une stabilité dans vos relations affectives, qu'elles soient amoureuses ou amicales, si vous allez pouvoir y arriver, parce que il est important d'en parler, de cette peur et de cette angoisse. Et justement, la première fois que l'on s'est parlé, vous veniez de commencer une thérapie. Avez-vous revu le psychologue, où en est-il?
Alors je l'ai revu, donc c'était le psychologue du CMP. Donc on s'est vu plusieurs fois, on a discuté. Ensuite, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que c'était vraiment constructif pour moi. Puis j'ai eu vite l'impression, en quelques rendez-vous, qu'on commençait à tourner un peu en rond. Parce qu'il avait tendance à me dire, à me dire des choses comme « bah oui, c'est normal ». C'est le cas dans plein d'histoires. J'ai parlé de mon histoire de famille. Et voilà, comme si, malgré tout ça, alors au début, il me disait que si j'allais ensuite... j'avais un autre rendez-vous normalement à la clinique pour voir un psychiatre. Il m'a dit, bah là, ce serait plus pour avoir une aide médicamenteuse. Moi, c'est pas quelque chose dont j'ai envie. Donc, j'ai un peu laissé tomber ce côté-là, quoi. Aller voir la clinique pour avoir une aide médicamenteuse. Ensuite, on m'a dit qu'il fallait que je fasse un vrai travail, comme on dit, une thérapie sur le long terme. Et pourtant, au début, les premiers rendez-vous, vraiment, ce fait de parler comme ça avec un psychologue, moi, j'ai tendance à dire tout de suite, hop, j'explique, on parle d'un sujet, je pose une question, j'ai envie d'avoir une réponse tout de suite, et je ne l'ai pas. Et je pense que c'est normal, et j'ai presque une frustration par rapport à ça, et pourtant, je l'ai revu, donc là, on a eu une grande réunion familiale, j'ai dû voir ma famille, là, on est parti, donc toute ma famille, mes sœurs, ma grand-mère, ma mère, ma tante, ça a remué beaucoup de choses. Et j'ai vu le psychologue avant de partir et en rentrant. Et en rentrant, il me demande comment ça s'est passé. Je dis, bon, ça a été. Sur le moment, je l'ai bien vécu. J'ai même eu l'impression d'être optimiste, d'être sereine, d'être, tout ça, de remettre bien les choses à leur place. Et pourtant, quand je rentre, ensuite, quand je remets tout ça à plat dans ma tête, je me dis encore, ça c'est fait. Et après, à quoi ça va servir? J'ai envie d'avoir un rôle, entre guillemets, pour faire le lien, même par rapport aux membres de la famille. Je vois avec mes sœurs, on a eu des fois des discussions, parce qu'il faut les... quand on est quatre, c'est compliqué, il faut toujours faire le lien, on se parle à deux, à trois, à quatre, tout ensemble.
C'est vous qui faites le lien ? Pardon, je vous interromps.
Mais ouais. J'ai l'impression, de temps en temps, en tout cas, pas tout le temps, hein, je dis pas tout le temps, mais comme si j'arrivais à temporiser sur le moment. Mais c'est pas pour autant derrière que je suis vraiment soulagée de ça. Et pourtant, sur le moment, il y a des choses très positives qui se passent et ça me fait du bien sur le moment, mais ça m'aide pas du tout à me sentir plus sereine dans l'avenir.
Oui, je comprends. Un peu comme dans vos histoires amoureuses, vous vous investissez beaucoup parce que vous êtes très affective, très impliquée et intelligente. Et sensible, et vraiment, je pourrais... Vous avez, y a, quand on vous entend, la façon dont vous parlez avec cette sérénité apparente de votre histoire peut être trompeuse. On peut avoir l'impression, et peut-être que votre entourage, vos sœurs, pensent, elle est forte, elle peut comprendre les choses, elle a du recul. Mais il y a derrière tout ça, il y a une profonde angoisse.
Et pourtant, elles le savent que même si je peux être forte sur le moment et tout, elles savent que de temps en temps, vraiment, ça me dépasse et que je peux être très, très triste et très sensible parce que c'est déjà arrivé vraiment, même en famille, je sais pas, au bout d'un week-end, qu'on se fâche comme sûrement dans plein de familles et vraiment que je pleure et que je dise, voilà, moi, tout ça, ça me. Bah, de temps en temps, ça peut même arriver où je dis, si c'est tout le temps. Régler des conflits. J'ai déjà dit à mes sœurs, comme ça, en fin de dispute, entre guillemets, dans ce cas-là, on arrête de se voir. Alors, si c'est pour à chaque fois que ça finisse comme ça, les histoires de famille, on arrête de se voir, carrément. Et pourtant, c'est pas quelque chose que je veux ou que je pense, pas du tout. La famille, c'est très important.
Mais ça vous pèse par moments.
Ça me pèse. Et quand j'ai pas d'autre solution, je mets un trait un peu brutal en fin de discussion. Et ensuite, je le regrette. Et ensuite, je m'excuse.
C'est-à-dire que vous savez prendre soin des autres. Vous prenez en charge les autres. Qui s'occupe de vous ? Qui vous console ? Vous, dans la famille ?
Personne.
Voilà.
Enfin, si, même quand elles le font, même que ce soit ma mère ou mes sœurs ou même mon beau-frère et tout, je peux avoir des gens qui me consolent, mais au bout d'un moment, je me sens même pas trop légitime, quoi. Je me dis, de toute façon, ça sert à rien, vu qu'ensuite, je vais retrouver ma vie solitaire, entre guillemets.
Oui. Mais c'est-à-dire que cette solitude, elle vient de cette tristesse de fond qu'il y a chez vous. De cette peur, finalement, de cette insécurité qui est présente. Et là, en thérapie, c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler. Mais... Je pense, enfin, vous me dites que quelqu'un vous a dit qu'il faudrait un travail un peu au long cours. Est-ce que c'est pas forcément possible au centre médico-psychologique parce que malheureusement, il y a beaucoup de monde, peu de rendez-vous disponibles. Ne pourriez-vous...
Après, apparemment, maintenant, on peut trouver peut-être même par téléphone parce que donc il m'a dit au centre, si je vous mets avec... une psychiatre avec qui ça se passe bien et tout. Ensuite, vous pouvez même faire des rendez-vous téléphoniques. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand on a envie comme ça. Je pense que ça concerne plein de gens de démarrer quelque chose pour soi. Et puis, on a tendance de temps en temps à baisser les bras parce que ça paraît tellement long. Et on se dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et puis, d'un coup, on se rend compte que si, en fait, on en avait besoin. Alors, on réessaye. Mais il y a plein de choses qui existent. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai écouté beaucoup de choses sur l'hypnothérapie. C'était quelque chose qui m'attirait.
Oui, vous m'en aviez parlé, oui.
Ouais. Et j'en avais parlé avec le psychologue du CMP. Il m'avait dit pourquoi pas. Puis ensuite, il me dit que c'est peut-être pas ce qui me correspond parce que moi, j'ai comme si j'avais l'attente que ce soit quelque chose d'un peu...
Comme un peu magique. Et ouais. Oui, bien sûr. Mmh. Oui, oui.
Et pourtant, j'ai quand même envie d'y croire. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose d'un peu magique qui débloque tout. Non, c'est sûrement pas possible.
Si, il y a quelque chose qui va se débloquer. Pour le moment, vous avez une analyse très fine de votre ressenti, de votre situation. Mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous échappe et qui par moments vous déborde, il y a ce manque, il y a cette absence qui pèse lourdement dans vos relations d'aujourd'hui. Mais vous avez 31 ans, Elia. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se vivre et se construire. Alors, peu importe finalement la forme de thérapie que cela prendra, mais ce qui est important, c'est que vous ayez un suivi régulier. Vous me disiez que sur le plan professionnel, ça se passait bien pour vous.
Alors c'est pareil, sur le plan professionnel, j'ai aussi un problème avec l'engagement. Moi je suis dans un secteur d'activité où il y a du travail, ok. Après comme n'importe qui, je pourrais choisir un employeur, un poste qui me plaît vraiment et rester. Et même quand un boulot me plaît, que mon employeur, mes collègues, quand tout se passe bien, quand j'arrive au bout de quelque chose, hop, j'ai envie de changer, même si tout se passe bien. Donc là, moi je suis dans mon métier depuis plus de 10 ans, donc ça y est, j'ai une bonne expérience. J'ai même été, je voulais devenir formatrice. J'ai été jury professionnelle pour les examens. Je me rappelle, j'ai discuté avec un formateur et il me disait, tu devrais essayer. Bon, moi, je me sens un peu jeune, mais bon, j'ai quand même de l'expérience. Donc, on me dit, tu devrais essayer. Et j'ai presque l'impression, dans un groupe de formation, si par exemple, j'avais une dizaine de stagiaires, que comme j'ai vu sur le principe d'être jury pour des examens, sur une semaine, par exemple, moi, j'ai déjà dû tendance à m'attacher aux gens, entre guillemets. Enfin, et j'ai presque peur de faire ça, parce que je me dis, si j'ai un groupe avec moi, je vais tellement m'investir, et après, une fois que c'est fini, je vais avoir toujours ce sentiment de tristesse, entre guillemets. Mais enfin, c'est dommage, parce que peut-être je m'empêche de vivre des choses bien.
Oui, Elia. C'est vrai, c'est tellement dommage, parce que vous avez tellement de qualité. Et c'est pas étonnant, je suis pas étonnée qu'on vous ait proposé de faire de la formation, parce que vous avez vraiment toutes les qualités, l'empathie, l'engagement, l'investissement. Mais il y a c'est toujours ce rapport au lien, ce rapport à l'autre, cette peur, au fond, de vous attacher, qui vous fait partir, fuir, et qui vous rend malheureuse. Et ça, c'est là-dessus qu'il faut vous pencher. Et vous allez voir que ça peut se débloquer. C'est pas magique, c'est en vous. Avec l'aide d'un thérapeute, vous allez y arriver. Simplement, il faut que vous ayez un suivi plus régulier. Que ce soit avec un hypnothérapeute ou avec quelqu'un avec qui vous avez un échange en face à face, vous pourriez peut-être envisager de prendre en charge cette thérapie. Voyez quelqu'un en libéral. Même, il y a des psychiatres qui font des thérapies et qui peuvent vous faire une feuille d'assurance maladie, ce qui ferait que vous seriez remboursé. Ça serait bien que vous ayez, par exemple, une séance par semaine. Vous voyez, je pense. Oui. Ne restez pas comme ça. Là aussi, on est dans un lien dans la thérapie. C'est investir.
Ben oui, c'est ça.
Et oui, et là aussi, ça vous renvoie cette personne. Ça, il y a forcément un attachement qui se met en place de part et d'autre, vous savez, parce que les psys aussi s'attachent à leurs patients.
Je m'en suis rendu compte déjà un petit peu avec le psychologue sur les premières séances, hop, on discutait. Puis au bout d'un moment, je ne sais pas, une fois j'arrive, il me dit, bon alors comment ça va ? Et bon, alors on a les masques par rapport au Covid.
Oui.
Mais le fait d'échanger un regard, les yeux dans les yeux. Quand il me pose une question, si je réponds, comme si je pouvais pas trop me cacher, et le fait de devoir vraiment dire quelque chose d'honnête, de personnel et de sensible, si j'ai son regard en face. Alors au début, sur les premières séances, ça me posait pas trop de problèmes. Et au bout d'un moment, de plus en plus, parce qu'on commençait à avoir un lien et qu'il voyait un peu plus clair en moi, je pense. Ça m'a gênée.
Eh bien oui, vous voyez. Mmh. Et oui, et là, vous touchez à quelque chose de très fort au niveau de votre problématique. Mmh. Parce que c'est au niveau du lien que ça pose problème chez vous. Mais vous allez arriver à dépasser, à surmonter vos peurs. Vraiment. Mmh. Vous en avez toutes les capacités, Elia. Moi, j'ai vraiment confiance en l'avenir pour vous.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est d'y arriver de temps en temps, vraiment. Et donc de le vivre et d'y croire et tout, et que si à un moment il y a quelque chose qui coince, quoi, enfin, et ben encore de
vous rentrez dans votre coquille et vous sabotez la relation. Ben oui, vous l'avez fait à plusieurs reprises. Cette prise de conscience, elle est essentielle et c'est un point pour aller vers autre chose. Et vous allez voir que vous allez vous apaiser progressivement et pouvoir investir, avoir une belle relation amoureuse, des relations amicales. Et ça va se passer dans le cadre de la thérapie. Avec le psy, vous allez travailler tout ça. Vraiment. Courage. N'ayez pas peur.
Merci,
n'ayez pas peur de vous, Elia. Vraiment. Il y a de belles choses qui vont advenir. J'en suis convaincue. Je vous embrasse, Elia.
Oui, moi aussi, je vous embrasse. Merci, Caroline.
Merci beaucoup.
Au revoir, bonne journée.
Au revoir, bonne journée à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Que sont-ils devenus ?» et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Pour écouter les autres épisodes et accéder à tous les replays des émissions Parlons-nous, rendez-vous sur l'application RTL, le site rtl.fr et toutes nos plateformes de podcasts partenaires.